Catherine Le Matin. Voici le Doc Mayou.
Ce gilet jaune qui a des appuis sur Facebook.
Oui, certainement des appuis et des mentions j'aime, Catherine. Si c'est pas par milliers même.
Absolument. Bonjour, Dr. Mayou.
Ah oui?
Ah ben, oui?
Une centaine, je vous dirais. Ce matin, on était à 116 mentions j'aime sur votre photo sur notre page Facebook.
Et des commentaires aussi.
Beaucoup de commentaires,
qui vous appuient même. Dans nos messages privés, Raphaël, on a reçu...
Tom Poulin. Ouais. Catherine, je te l'avance. Tom Poulin, qui est en fait des gilets jaunes estrie. Il nous a écrit ce matin pour dire qu'il était bien content de voir que vous appuyiez le mouvement des gilets jaunes et qu'il allait commencer à écouter notre émission. Parce que, justement, vous avez porté ce fameux gilet jaune.
Excellent.
Excellent.
Alors, on va continuer.
Oui.
Et Catherine, Raphaël, Serge et Claude, concernant l'histoire de Raph Mohamed, cette jeune Saoudienne de 18 ans, j'ai cherché dans tous les médias, Journal de Montréal, Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Devoir... Pouvez-vous croire que je n'ai pas retrouvé sa déclaration intégrale qu'elle a faite hier à CBC Radio-Canada? C'est la version anglaise de Radio-Canada qui a été reprise et qui est reprise copieusement par Radio-Canada Montréal.
OK.
Ça me dérange beaucoup qu'aucun quotidien ne se soit donné la peine de reproduire la déclaration de cette jeune femme qui pourrait s'avérer être une héroïne des temps modernes. Je voulais interpeller ce matin les musulmans concernant les propos d'une des leurs qui prétend qu'en renonçant à l'islam, elle s'expose à la peine de mort. Est-ce que c'est vrai ou s'il s'agit d'une jeune délirante? Je voulais les interpeller sur tout les autres éléments. Parce que souvenons-nous qu'il y a à peine quelques mois, on essayait de nous faire avaler que les femmes sont libres, les femmes musulmanes sont libres de porter le voile.
C'est faux.
Bon, ceci étant dit.
Oui, non, mais vous faites bien. Mais c'est vrai ce que vous dites parce que moi, hier, j'ai pas mal suivi ce dossier-là et en effet, à Radio-Canada, même en français, on reprenait une partie de son témoignage qui avait été fait en anglais à la CBC. Mais ce matin, j'ai fait la même chose que vous. On en parle là, dans les différents médias, mais on ne reprend pas. Et même, ça aurait été important de le faire.
Tu trouves pas ça inquiétant?
Je suis d'accord. Oui, en effet.
Je trouve ça extrêmement inquiétant qu'aucun média écrit à date n'ait repris l'intégralité de la déclaration. Puis c'est pas long. Ça n'a pas duré tellement longtemps, là. Mais c'était dense.
Est-ce que vous me permettez...
Et plutôt que d'y aller de mémoire... Oui, vas-y.
Non, non, complétez, puis je vais y aller par la suite.
Ben, plutôt que d'y aller de mémoire, j'attends d'avoir les mots exacts de la traductrice.
Ouais.
Lors de cette entrevue qui a été accordée en arabe.
Parce que ce qu'elle racontait, là, en gros, elle est arrivée samedi au Canada, pour vous remettre en contexte. Elle avait pris la fuite vers la Thaïlande en provenance du Koweït, où sa famille se trouvait en vacances il y a à peu près une semaine de ça. Elle espérait au départ trouver refuge en Australie, mais s'est vue confisquer son passeport par un représentant de l'ambassade saoudienne. Son père et l'un de ses frères l'ont suivie jusqu'en Thaïlande pour la ramener en Arabie saoudite. Elle a refusé de les voir. Et elle s'est barricadée dans une chambre d'hôtel à l'intérieur de l'aéroport de Bangkok. Elle a réussi à mobiliser l'attention internationale grâce à son compte Twitter. Et par la suite, bon, vous connaissez la suite des choses, mais... Il nous manque... Oui, je suis d'accord avec vous.
Il nous manque ses propos.
C'est ça, oui. Ben, en fait, oui.
Alors, son histoire se résume à ce que tu viens de dire.
Oui.
Mais elle a tenu des propos extrêmement interpellants pour les musulmans de Québec, de Trois-Rivières,
de partout,
de Sherbrooke et surtout de Montréal.
Ben, de partout, hein, Dr. Mayou, on est bien d'accord.
Bon, on parle du Québec, là.
Oui, oui, non, mais je veux dire de partout au Québec.
Ceci étant dit, tout à l'heure, écoute, il y a... L'histoire de Nathalie Morin, cette Québécoise dont la fille est retenue en Arabie Saoudite.
En fait, Nathalie Morin, c'est la femme qui est retenue là-bas. Sa mère, c'est Joanne.
Ah, Joanne, excusez-moi.
C'est ça,
Joanne Morin, qui accorde des entrevues, là. Sa fille est en retenue là-bas.
Ouais.
Bon, là, on va se dire des choses simples ce matin. The law of the land, ça se traduit en français par la loi des pays. La loi du pays. Là, ce matin, on a une histoire... de loi chinoise qui autorise la mise à mort de trafiquants de drogue.
Ouais.
Puis on a un Canadien qui pourrait se faire couper le cou.
Ouais.
400 livres, il est accusé, reconnu coupable d'avoir trafiqué En Chine, 400 livres d'amphétamine, 224 kilos. Bon, et eux, les trafiquants de drogue, comme Duterte aux Philippines, ils n'aiment pas ça. C'est leur loi. Bon, on a quoi? On a l'Arabie Saoudite qui, supposément, met à mort les Saoudiens qui renoncent à l'islam.
Ouais.
Tiens. Je vais le mettre au conditionnel. Selon Raaf Mohamed, parce que j'en sais pas plus, c'est à travers sa traduction,
ouais.
Al-Kunun, que l'Arabie Saoudite mettrait à mort les citoyens qui renoncent à l'islam. Mettrait. On a la France qui fait le procès de deux policiers avec une Canadienne qui prétend avoir été enivrée de force par deux policiers, d'avoir été amenée au Quai d'Orsay. D'ailleurs, je passais devant la semaine dernière sur l'île de la Cité, là où ils sont installés, le commissariat de police, le palais de justice. C'est intéressant. Alors, ceci étant dit, trêve de vantardise. Alors, ceci étant dit, la Chine, l'Arabie Saoudite, la France, ce sont des pays souverains qui ont leurs lois. Essayez, Québécois naïfs, lorsque vous allez en quelque part, de reconnaître que ce ne sera pas la loi canadienne qui va prévaloir en Chine, en Arabie Saoudite, en France. Ça va être leur loi. Comprenez-vous toute la différence? Lorsque la jeune Raaf Mohamed a mis les pieds à l'aéroport de Toronto, elle était en sol canadien.
Ouais.
Elle tombait sous la loi canadienne. La fille de Joanne Morin, Nathalie, elle est en Arabie Saoudite. Est-ce qu'elle a été enlevée de force du Québec?
Ben, pas enlevée de force, mais... je comprends votre point, Dr. Mayou, mais vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de marketing dans tout ça, que c'est beau, cette histoire-là, puis que ça fait bien paraître le pays?
À l'occasion, le marketing, s'il est bien utilisé, peut conduire à de grands succès. D'où ma requête d'avoir, si possible, le texte intégral de la déclaration de Raaf Mohamed Al-Kunun.
D'accord. On va essayer de...
Parce qu'elle pourrait devenir, je répète, une héroïne des temps modernes. Qui va mener à un changement colossal. Je suis tanné de me faire avaler des couleuvres par les islamistes et les musulmans. Je suis tanné.
OK.
J'irai pas plus loin ce matin.
Oui, on va s'arrêter là-dessus, mais il y a d'autres choses.
Alors, je vous écoute.
Dossier, quelque chose dans Le Devoir qui m'est... en fait, dans ma revue de presse de ce matin, que je trouve intéressant. Il y a des chercheurs qui jugent que les patients qui souffrent de troubles mentaux intolérables devraient avoir accès à l'aide médicale à mourir au même titre que ceux qui souffrent de maux physiques. Êtes-vous d'accord avec ça?
Bien, Catherine, je vais répondre à ta question par une information.
Allez-y.
30%, un sur trois qui souffre de schizophrénie va s'enlever la vie. 30.
C'est beaucoup.
Non, c'est... Attends un petit peu. Je crois que c'est un sur dix. Il faut que je fasse attention, là, il y a quelque chose.
OK, bien, vous nous reviendrez avec les bons chiffres.
Attends un petit peu. Je crois que c'est un sur dix va s'enlever la vie et 30% vont faire une tentative létale et rater leur coup. Tentative létale, ça veut dire que normalement, ça aurait dû conduire à la mort. Exemple, se tirer dans le thorax puis passer à quelques centimètres de l'aorte. J'ai eu des patients qui ont fait ça.
Okay, donc...
C'est 1 sur 10 va s'enlever la vie, donc c'est 10%, et 30% vont faire une tentative qui normalement aurait dû conduire à la mort, mais...
Je ne savais pas que c'était... En tout cas, peut-être en statistique, on regardera, mais c'est beaucoup. Mais ça, je ne suis pas surprise de ça. Mais donc, à la suite de cette information-là, est-ce qu'on devrait?
Bon. Alors, je reviens à mon propos d'hier matin.
Oui.
Urgent de faire de meilleurs diagnostics en psychiatrie et d'être plus efficace dans nos traitements et nos mesures d'encadrement des personnes qui en ont besoin.
OK. Il y a une auditrice qui a une question pour vous dans un autre ordre d'idée. Je trouvais ça très pertinent. Elle dit, Catherine, peux-tu poser la question au Dr Mayhew demain? Je dis oui, avec plaisir. Julie se demande, à partir de quels indices ou signes est-ce qu'un psychologue ou psychiatre doit recommander le retrait des armes à une personne dépressive ou à risque pour sa vie et celle des autres? Et elle dit, elle pose une autre question, est-ce que les intervenants sont obligés de recommander le retrait des armes lorsqu'une personne est en dépression majeure?
Pauvre Julie, c'est un problème secondaire.
Qu'est-ce que
c'est qu'en psychiatrie, la plupart des patients ont égorgé un proche ou tranché la gorge. Ils l'ont étouffé ou tranché la gorge.
Non, mais on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un en dépression majeure.
Ben oui, mais c'est la même chose. C'est un problème secondaire. Après 39 ans et demi de psychiatrie, c'est rare que je m'informe s'il y a des armes.
Ah oui?
Ben oui.
Ouais, mais attendez, là. Ça ne veut pas dire que je suis en dépression majeure que je vais aller égorger mon voisin, là.
Dépression majeure et en psychose, avec des symptômes psychotiques.
Bien là, vous venez d'en rajouter. Oui, OK. Ça, c'est autre chose. On est à un degré différent, là.
Bon, regardez. Un matin, veux-tu qu'on se parle franchement?
Ben oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui est préférable? Que quelqu'un se tire une balle dans la tête ou provoque un face-à-face sur la route? Fait que répondez à la question, puis...
Ouais, mais
donnez-moi plus.
Bon,
non, mais comprends-tu?
Ben,
alors, dépression majeure, psychose, etc., qu'est-ce qui est préférable? Se tirer une balle dans la tête ou provoque faire un face-à-face?
Non, mais la question de Julie...
Alors, le point, il est là.
Ben, il est là en partie. Ben, est-ce que comme psychiatre, Dr Mayhew, est-ce que vous êtes-tu déjà arrivé de dire de quelqu'un, attendez là, OK, lui il a des armes, il va pas bien, il est un danger pour lui ou pour les autres, est-ce que vous pouvez intervenir?
Oui, je l'ai déjà fait.
Vous l'avez déjà fait? Bon.
Je l'ai déjà fait et le type était un employé du ministère des Transports. Il m'a traduit, il m'a poursuivi en justice. Ça a fini par se régler par 2 000 $ que la compagnie d'assurance a payé pour les avocats.
Parce que vous lui retiriez ses armes?
Parce que j'ai appelé la police pour lui dire que le type venait de me confier à 6 h le matin à l'urgence de l'hôpital Sainte-Marie. Qu'il avait passé toute la nuit à faire le tour du quadrilatère où était son ex-petite amie avec un 12 dans le coffre.
OK, bien là, c'était une bonne intervention, je pense. On vous seconde dans votre intervention. OK. Bon,
alors, dans ce cas-là, j'ai appelé la police. Et puis, j'ai voulu le garder à l'hôpital. Il a dit non. J'ai dit, j'appelle les polices. J'ai dit, un tel. Alors, il y avait effectivement plusieurs armes. Il y avait un 12, puis il y avait plusieurs armes. Dans ce contexte-là, je l'ai fait. Généralement, dans la vaste majorité des cas, la famille, lorsque quelqu'un va pas bien, va enlever les munitions. C'est très rare que j'intervienne à ce niveau-là.
OK, je comprends. OK.
N'oubliez pas surtout le tableau, la vignette que je vous ai soumise.
Oui,
concernant... Alors, inutile de dire que lorsqu'on me parle du registre québécois, du contrôle des armes à feu, quel moyen totalement inefficace. Une leurre sociétale.
On connaît votre opinion là-dessus. OK. Le temps file, Dr Mayhew. On se retrouve à la commission PM. Allez-vous porter fièrement votre gilet jaune ou vous prenez une pause ce matin?
Non, à nouveau, parce que je dois le porter au moins une couple de jours.
OK,
parce que ça se pourrait, je ne sais pas qu'est-ce que va décider mon chef d'orchestre, mais il se pourrait qu'elle me fasse battre la mesure du gilet jaune ce matin.
OK. À tantôt, 9h05 pour la commission PM. Oh, c'est très bien dit. Vraiment, en 2019, votre langage.
L'influence. Écoute.
C'est Denise. Est-ce que c'est Denise Bombardier qui...
Non, c'est mon séjour chez les cousins.
Ah oui, bien sûr. À tantôt, docteur May. Eh oui.
Il n'y a pas de souci.
Vous n'avez pas croisé Michael Jean, non? Avec non?
Non.
Vous n'avez pas manqué d'eau chaude à Paris, j'espère?
Non, l'eau chaude était au rendez-vous.
Ah, parfait. Parce que manquer d'eau chaude, hein, vous savez que ça peut être très désagréable. À tantôt, Dr Mayhew, 9h05, on vous retrouve. On le retrouve bien sûr avec José à 9h30.